Bonjour, enfants de Dieu, saints de l'Éternel, ici le pasteur Joe Spinks et je suis content d'être là aujourd'hui avec vous. On continue dans le troisième chapitre sur Dieu, notre Dieu trois fois saint. Et aujourd'hui, on va voir encore une fois des choses super importantes qu'on doit comprendre concernant le Fils de Dieu, Jésus. Donc, Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est un avec le Père, on a vu ça dans notre dernière session. Jésus est le Fils de Dieu. Et maintenant, nous allons voir ensemble Jésus, le Fils de Dieu, prie à son Père céleste. Vous allez dire, mais pourquoi c'est important pour nous de croire ça ou de réaliser ça? Bien, les gens qui parlent du modalisme vont avoir certains défis à ce niveau-là parce que si Dieu n'est pas composé de trois personnes, nous pouvons voir ici que Jésus parlait à personne. Mais non, dans Jean 17, verset 1, il est écrit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Donc Jésus, lorsqu'il priait, il priait au Père. Et on peut comprendre qu'il pouvait prier au Père parce que Dieu est composé de trois personnes. Bien sûr, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est Dieu incarné. Une des choses qu'on doit comprendre également, même si nous retrouvons des textes dans l'Ancien Testament où nous voyons le Seigneur Jésus, qui était habituellement appelé comme étant l'ange de l'Éternel, nous savons que, Dieu a toujours existé depuis toute l'éternité et même en fait en dehors du temps. Et nous savons aussi qu'il y a eu des moments où Dieu s'est présenté dans des époques différentes et d'une façon différente selon les époques. Peu importe, mais cela nie pas l'existence des trois personnes dans Dieu. Ça, c'est juste une chose importante. Parce que des fois, les gens vont vous dire, « Oui, mais regarde ici, nous voyons l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, et puis ici, c'est clair, ça nous parle de Jésus. » Et oui, absolument, c'est une réalité. Il y a ce que nous appelons des théophanies ou des temps où le Seigneur Jésus est venu sur la terre avant son incarnation. Oui, c'est vrai, selon les récits bibliques, nous retrouvons l'ange de l'Éternel. Certainement, je n'ai pas de problème avec ça. Cependant, ce fait-là ne nie pas la réalité que nous avons un Dieu composé de trois personnes. Et on insiste là-dessus parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vraiment passer leur temps à argumenter là-dessus. Et je peux vous dire en partant, qu'on ne peut pas gagner des arguments intellectuels là-dessus parce que ça fait toujours plus de sens de diminuer notre grand Dieu. C'est toujours plus facile pour nous. Mais si nous voulons vraiment marcher dans les voies de Dieu, on accepte ce que Dieu dit sans tout comprendre. Okay? Donc, ce qu'on veut voir, Jésus est Dieu incarné dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Si on parle de Jésus, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, si on va au verset 14 dans Jean chapitre 1, il est écrit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est assez clair ici. Si nous lisons et si nous sommes honnêtes avec le texte biblique, c'est très clair que Jésus s'est incarné. Et nous comprenons la raison pour ça. Nous avons vu au tout début, dans nos premières sessions, que Dieu a vu l'état de l'humanité et puis savait qu'il devait venir sur la terre sauver l'humanité parce que l'humanité était tachée par le péché, était contaminé par le péché. Il devait venir sur la terre. Donc, il a envoyé son Fils, qui est Dieu. Jésus est venu sur la terre. Il a vécu cette vie parfaite afin de recevoir la punition que nous méritions. Et puis, nous savons, lorsqu'il est allé mourir sur la croix, il a pleinement payé la dette de péché. Et aujourd'hui, lorsque nous relâchons notre foi, nous plaçons notre foi dans l'œuvre de la croix, nous croyons qu'il a payé pour notre dette de péché et nous pouvons être sauvés. Donc, comprenons que Dieu devait venir sur la terre pour sauver l'humanité. C'était la solution que Dieu avait pour nous racheter. Jésus a ses propres témoins. Tout comme le Père a eu ses témoins avant la venue de Jésus, dans Ésaïe 43, verset 10, Jésus a ses témoins aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais vous devez être des témoins de Jéhovah pour vraiment être biblique. Parce que là, on va citer Ésaïe 43, verset 10, mais ça, c'était avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus sur la terre. Dans Actes chapitre 1, au verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est très important ici. Jésus est le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Dans Matthieu 28, verset 18, il est écrit « Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7 à 8, il est écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Mais c'est qui a été percé? C'est Jésus, c'est certain. L'alpha et l'oméga, ce qui veut dire le A et le Z de l'alphabet grec. Ici, c'est qui le début et la fin? C'est Seigneur Jésus, ce qui veut dire il est vraiment là, à l'origine de toute chose. C'est Jésus, le Créateur. Donc, c'est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est clair, Jésus est le Tout-Puissant. Dans l'Apocalypse 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ésaïe 9, 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Une note ici. Jésus est le Père de l'éternité. Il ne faut pas le confondre avec Dieu le Père. Des fois, les gens se sont mélangés là-dessus. Jésus est le Père de l'éternité. Il ne faut pas le confondre avec Dieu le Père. On continue. Jésus est le Créateur de tout, le Père de l'éternité. Dans Hébreux, chapitre 1, versets 2 à 4, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Maintenant, Colossiens chapitre 1, versets 12 à 19, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. » Donc, c'est important ici de voir. En passant, quand nous parlons ici du premier-né de la création, on parle d'un titre ici. Ce n'est pas littéral. Nous parlons ici d'un titre qui a été en même temps attribué à David. Le roi David a également été appelé le premier-né et pourtant il n'était pas le premier-né dans sa famille. Mais ici, nous parlons d'un rang ici de supériorité. Donc, c'est clair ici, dans le texte, nous retrouvons le Seigneur Jésus, l'image du Dieu invisible, et par lui, toutes choses ont été créées. Amen. Donc, nous comprenons ça. Jésus est le Créateur de tout, le Père de l'éternité. Jésus inférieur au Père. Il y a des gens, des fois, qui vont dire, oui, mais il y a un texte ici dans Jean 14, verset 28, où Jésus a lui-même dit qu'il était inférieur au Père. Donc, c'est impossible que Jésus soit Dieu. Remarquez ceci. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Une des choses qu'on doit vraiment comprendre ici, c'est le contexte. Quand Jésus a parlé, il se retrouvait sur la terre. Il avait quitté la gloire céleste et ici, il parlait en tant que Jésus homme. En tant qu'homme, Jésus avait accepté ici de dire que le Père est plus grand que moi. Et nous comprenons cela parce que dans son humanité, Jésus a choisi de s'abaisser pour un temps. Nous retrouvons ici la réalité de ce fait dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est très clair. Si nous voulons comprendre la parole de Dieu, si nous prenons le temps de comprendre les moments quand quelqu'un parle dans la parole, nous allons comprendre ici le contexte. Jésus se disait ici, le Père est plus grand que moi à ce moment-là, parce que Jésus marchait sur la terre ici, il s'adressait aux hommes, et étant lui-même un homme. Toutefois, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il était, oui, 100% homme, 100% Dieu. Il n'a jamais perdu sa divinité, mais il a choisi lui-même de marcher sur cette terre comme un simple homme. Et puis la gloire du Seigneur Jésus n'était pas là sur lui. Il ne rayonnait pas la gloire. Quand les gens le voyaient, ils ne pouvaient pas discerner que cet homme-là était divin. Les gens devaient exercer la foi en lui également. C'est pas comme si on voyait une lumière qui brillait sur lui, comme des fois on peut voir sur des toiles. Non, Jésus marchait comme un simple homme. Il s'est rendu obéissant, même jusqu'à l'obéissance de la mort de la croix. Une autre chose qu'on veut comprendre ici, Jésus est digne d'être adoré. Et c'est seulement Dieu qui est digne d'être adoré en passant. Donc, si Jésus a accepté d'être adoré, s'il a accepté l'adoration des hommes, nous comprenons que ce Jésus sans tâche, sans faute, sans péché, bien, il accomplissait la volonté de Dieu. Ce n'était pas un péché pour lui d'accepter ces louanges-là. Dans Hébreux chapitre 1, versets 5 à 6, il est écrit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent, que tous les anges de Dieu l'adorent. » Jésus ici reçoit l'adoration. Dans Matthieu 4, versets 8 à 10, le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est clair ici. Et dans Exode 20, verset 1 à 5, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Donc, note dans le livre de Daniel, le troisième chapitre, les trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar, car ils craignaient Dieu. Certainement, Jésus craignait Dieu. Jésus était lui-même Dieu et Jésus marchait dans un chemin de perfection. Et dans ces textes que nous venons de voir ici, Jésus est digne d'être adoré. Donc, si Jésus est digne d'être adoré, et nous lisons dans Exode que seul Dieu mérite l'adoration, comprenons également que Jésus est Dieu. Alors, dans la session prochaine, nous allons voir Dieu, le Saint-Esprit. Nous allons découvrir qu'il n'est pas simplement une force active, peu importe les expressions qu'on peut donner, mais il est littéralement Dieu. Alors, d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis, continuez à marcher avec le Seigneur fidèlement, en étant fidèles à l'Église locale, dans votre lecture de la parole de Dieu et dans vos temps de prière. Alors, soyez bénis.